Vous êtes sur RTL.
Ne pas baisser la garde face à l'État islamique, c'est le message de fermeté d'Emmanuel Macron depuis Bagdad, où il assiste à un sommet alors que la situation en Afghanistan est dans tous les esprits. L'Afghanistan où les États-Unis ont riposté après l'attentat de jeudi à Kaboul. L'armée américaine annonce avoir mené une attaque au drone contre l'État islamique. Dans ce contexte très tendu, la France confirme l'arrêt des évacuations après avoir accueilli 2600 ressortissants afghans. Pour les associations humanitaires, un long travail commence. Alors que certains pleurent leur famille restée là-bas, vous entendrez le témoignage bouleversant d'Akhtar. Combien seront-ils à manifester contre le pass sanitaire? Après deux samedis en baisse, les antipasses mobilisent dans 200 villes. Nous serons à Denfert-Rochereau à Paris pour prendre la température de cette nouvelle journée d'action. C'est encore l'été, Céline Dacosta, sur la moitié sud de la France.
Oui, Anaïs, ils ont bien de la chance. Le soleil va encore briller largement au sud de la Loire avec des températures estivales, puisqu'on aura une moyenne de 24 à 30 degrés. Petit bémol pour le nord de la Corse, on aura un petit peu plus de nuages. Pour les Alpes-Maritimes aussi, avec là un risque d'averse et même d'orage en fin de journée qui pourrait déborder sur le Var. Pour la moitié nord, en revanche, ça va rester frais pour la saison. On l'a remarqué déjà ce matin, 19 à 23 degrés seulement en moyenne pour cet après-midi. Avec un vent un petit peu frais qui ne va pas ranger nos affaires. La bonne nouvelle, c'est que les éclaircies seront de retour, même si les nuages resteront largement présents près des frontières du nord, avec quelques coups de tonnerre possibles en fin de journée entre l'Alsace et la Bourgogne.
Merci beaucoup Céline Dacosta. À 13h, Marianne Chazelle, c'est vous qui ferez la météo.
Nicole, très bien. Oh, voilà. J'aime beaucoup la météo, voilà. Vous savez que c'est un sujet passionnant.
Le journal inattendu sur RTL.
Ne pas baisser la garde face à l'État islamique, c'est le message de fermeté d'Emmanuel Macron depuis Bagdad, où il assiste à une conférence sur la stabilité de l'Irak et de la région. Il est le seul chef d'État occidental présent. Brice Dugénie, vous êtes à Bagdad, bonjour.
Bonjour.
Dans le contexte de désengagement militaire américain au Moyen-Orient, les forces en présence multiplient les initiatives de dialogue.
Oui, même si l'Afghanistan ne fait pas partie des pays invités à cette conférence, hein, car ce n'est pas un pays du Moyen-Orient, la situation à Kaboul est dans tous les esprits, d'autant que l'Irak est également concerné par la menace terroriste de l'organisation État islamique, comme l'a rappelé le président français ce matin aux côtés du Premier ministre irakien.
Daesh a été défait territorialement en 2017 grâce au courage des forces armées irakiennes et avec l'appui de la coalition internationale. Et nous savons tous qu'il ne faut pas baisser la garde, car Daesh demeure une menace. Et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité. Je veux ici vous redire l'engagement de la France à vos côtés.
En marge du sommet, Emmanuel Macron souhaite d'ailleurs s'entretenir avec l'émir du Qatar. Le Qatar, vous savez, c'est un pays très important car il a offert l'hospitalité aux dirigeants talibans en exil ces dernières années. Et les négociations entre Américains et talibans se sont déroulées à Doha, la capitale du Qatar. Donc pour le président Macron, la proximité de l'émir avec les talibans en fait un interlocuteur important. L'enjeu, par son intermédiaire, est de négocier, trouver une solution pour reprendre de possibles évacuations, notamment de ces Afghans bloqués à Kaboul et menacés par les talibans.
Brice Dugénie, envoyé spécial en Irak pour RTL. La riposte américaine n'a donc pas traîné. L'armée annonce avoir mené une attaque au drone contre un organisateur de l'État islamique. La cible a été tuée dans la province afghane du Nangar. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre près de l'aéroport de Kaboul puisque la menace d'un nouvel attentat reste très élevée. La France a par ailleurs annoncé cette nuit l'arrêt des évacuations d'Afghanistan puisque les conditions de sécurité ne sont pas suffisantes à l'aéroport. Le dernier avion doit arriver à Paris aujourd'hui. En tout, 2600 Afghans ont été accueillis pour Delphine Rouillot, directrice générale de l'association France Terre d'Asile. Un long travail commence.
Maintenant, l'enjeu, c'est de leur offrir non pas un hébergement de courte durée, mais vraiment des moyens d'intégration. Donc, on suppose que la plupart des personnes vont demander l'asile, donc la protection de l'État français. On espère, on suppose que l'État français leur accordera, évidemment. Et derrière, l'enjeu, c'est que les collectivités locales, qui se sont, par exemple, beaucoup mobilisées en se disant prêtes à accueillir, il faut qu'elles nous aident, il faut qu'elles aident l'État, qu'elles aident les associations à trouver des logements, à proposer des solutions de longue durée, parce que le problème de l'intégration en France, c'est pas les quelques semaines d'hébergement au début de l'arrivée sur le territoire, c'est véritablement la capacité à s'inscrire durablement sur le territoire. Donc voilà, trouver un appartement, trouver un travail, apprendre le français et inscrire ses enfants à l'école et tout simplement se construire une nouvelle vie.
Delphine Royot, directrice générale de l'association France Terre d'Asile, jointe par Benjamin Boucriche pour RTL. Certains n'ont en effet pas eu la possibilité de partir. Je vous propose d'écouter un témoignage bouleversant, c'est celui d'Akhtar. Il a travaillé pour l'armée française, il vit ici aujourd'hui, mais il n'a pas réussi à faire venir les siens. La semaine dernière, il a perdu son frère, torturé par les talibans. Et jeudi, deux membres de sa famille ont péri dans l'attentat de Kaboul. Il est en état de choc.
Je perds mon grand cousin et l'autre, le deuxième, il est toujours disparu. Avant de partir, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit on va y aller avec les papiers, les documents et tout. S'ils nous reçoivent à l'entrée de l'aéroport, vu qu'il y a plusieurs milliers de personnes, du coup, ils attendaient. Et ma mère, pareil et tout. Et finalement, il y en a un qui est parti et l'autre, on n'a même pas trouvé. Et samedi dernier, deux pick-up, ils s'arrêtent, ils capturent mon petit frère. Ils l'ont torturé à mort. Et ils m'ont envoyé des photos après. J'ai rendu du service pour la France, pour l'armée française pendant des années. Je me sens désespéré et abandonné.
Témoignage bouleversant, donc recueilli pour RTL par Lucille Bess. Pour la septième fois, les opposants au pass sanitaire vont battre le pavé à Paris et dans plus de 200 villes de France, de Toulouse à Dunkerque, de Livarot à Strasbourg. Les manifestants entendent protester contre la loi validée par le Conseil constitutionnel et qui est entrée en vigueur le 9 août. Une loi qui fixe l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour de nombreux professionnels, dont les soignants. Mais depuis deux semaines, la mobilisation semble marquer un coup d'arrêt. Nérissa Emani, vous êtes un enfer Rochereau au départ d'une des quatre manifestations parisiennes. Est-ce qu'il y a du monde, Nérissa ?
Écoutez, pour l'instant, une centaine de personnes sont réunies sur la place. Toutes sont vêtues de blanc en soutien au personnel soignant soumis à l'obligation vaccinale, mais aussi pour montrer, disent-elles, que le mouvement est pacifique. Ces manifestants répondent à l'appel du collectif citoyen Paris pour la liberté qui se mobilise chaque samedi contre le pass sanitaire. Chacun se défend d'appartenir à un mouvement politique. Ici, on croise des gilets jaunes, des infirmiers, des retraités, une mère au foyer, mais aussi un chercheur en biologie. Bref, des profils bien divers, mais un discours assez uniforme contre la politique du gouvernement. Le pass sanitaire est par exemple associé à un pistage numérique. Tous se méfient d'un vaccin dont les effets néfastes à long terme ne sont pas connus. Beaucoup me parlent aussi de traitements alternatifs contre le Covid. Alors, pour l'instant, ces manifestants préparent leur pancarte. Liberté, stop au pass sanitaire de la honte. Le cortège partira de cette place d'enfer Rochereau dans le 14e arrondissement à 14h.
Nérissa Emani en direct d'enfer Rochereau à Paris pour RTL. Une explosion est entendue ce matin dans le port d'hier, dans le Var. C'est une information de notre correspondant à Marseille, Hugo Hamelin. La détonation a eu lieu sur un bateau de 8 mètres qui se rechargeait en carburant. Une importante colonne de fumée noire était visible de la plage. Il y aurait plusieurs blessés. Les sapeurs-pompiers sont sur place. Une pause et dans un instant, les vacances, c'est fini. Et pour tous les Français, c'est la fin des vacances. La plage abandonnée, une saison estivale qui, dans le contexte épidémique, a été, je cite, « sauvée », d'après le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. 85% des Français sont restés sur le territoire. Et parmi ceux qui rentrent ce week-end, il y a Emma, une maman pleine d'énergie, et Zoé et Charlie un peu angoissés. Raphaël Vantard est allé faire un tour sur l'aire de Sérézin-sur-Rhône, sur l'autoroute A7.
En plus des kilomètres et des bouchons, il faut effectivement affronter sur cette route du retour des vacances la petite angoisse de la rentrée et du retour au travail. C'est plutôt simple pour Emma, maman de trois enfants, radieuse après deux semaines de vacances. La route pour rentrer à la maison se passe plutôt bien avec une organisation de conduite millimétrée.
Ça se passe bien, c'est pas moi qui conduis, mais c'est le papa qui conduit, mais ça se passe bien. On fait une petite pause, il est fatigué, il dort un peu et on repart après.
La route du retour, elle a un petit parfum de rentrée quand même.
Ah, un gros parfum de rentrée même. On reprend le travail dès lundi, donc ouais, ça va être rigolo de retravailler quoi.
Rentrée amusante, donc pleine d'énergie pour la maman, c'est clairement plus compliqué pour Zoé et Charlie, les deux petites filles. Elles auraient bien prolongé le séjour au bord de la mer.
On a été avec mon frère, ma sœur et mon père en vacances dans un appartement. dans un camping. Là, il y a des piscines. On a été à la mer et puis on a fait des choses. J'aime pas du tout la rentrée. Je peux rester avec ma maman.
Allez, courage, petite. Il va rester malgré le retour à la maison encore quelques jours pour profiter de papa et de maman avant de retrouver, en plus du maître ou de la maîtresse, les copains de l'école.
Merci Raphaël Vantard sur l'heure de ces raisins du Rhône pour RTL. Vous aimez la rentrée, vous, Marianne Chazelle ?
Ah, celle-ci, oui, cette année, oui. Petite, non, pas du tout. Maintenant, au contraire, j'apprécie, là.
Allez, une petite brève de sport. Jeux paralympiques de Tokyo. Le français Alexis Anquincan décroche son troisième titre olympique. Il a été médaillé d'or au triathlon. Au total, la France compte pour l'instant 19 médailles et prend la 11e place au classement général. Ça vous inspire, les Jeux paralympiques ?
Ah, ça me bluffe complètement. Je suis impressionnée par d'abord les performances physiques qu'arrivent à faire ces gens et puis surtout les conditions dans lesquelles ils les font et la volonté que dont ça témoigne l'entraînement. Enfin, je suis vraiment, c'est une leçon de vie. Et il faudrait le regarder plus souvent, parce que nous, quand on se lève et qu'on râle parce qu'on a trois courbatures...
Oui, ça fait de très bonnes audiences, en plus.
Oui. Tant mieux. Et vraiment, je pense que ça aide à changer le point de vue sur ce qu'on vit.
Handicap. Ouais.
Et sur le handicap, bien sûr.
Alors, Marianne Chazelle, vous revenez donc sur les planches auprès de Régis Laspalès. Ouais. Quelle chance! Il a tenu à faire la présentation de la pièce « La famille et le potager » de Bob Marley. Bonjour, Régis.
Bonjour Marianne, bonjour Anaïs. Alors, un petit résumé de notre pièce. Eh bien, je suis, moi, Denis, un peintre raté. Je peins des tableaux depuis 40 ans et j'en ai jamais vendu un seul. Je suis entretenu par ma femme, Marie, qui est une riche héritière, qui elle-même ne fait pas grand-chose. Et nous avons un fils raté. Et ce fils va faire une chose absolument incroyable. Alors, là, je ne peux pas vous en dire plus, mais bon, ce à quoi vous allez assister ensuite, c'est du jamais vu. Et on ne le souhaite à personne, même à son pire ennemi. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Il est bien mystérieux quand même, Régis Laspalès. Il est mystérieux, voire un peu inquiétant.
Il y en a qui ont essayé.
Non mais je m'en fous, il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes.
Vous qui avez essayé, est-ce que vous avez eu des problèmes
en faisant...
En jouant avec Régis Laspalès.
Ah, avec Régis, aucun problème. Non, non, c'est un homme délicieux. On s'amuse beaucoup, on rit beaucoup. On est sur la même longueur d'onde par rapport à l'humour très déjanté, assez provocateur de cette pièce. Hein. C'est pas du plan-plan. Hein.
Ah non,
c'est,
pas du tout.
Ça bouge, ça se coud.
Il fait pas que un truc grave, votre fils. Hein.
Non, en plus, franchement, on l'a totalement loupé. C'est un pauvre, c'est une catastrophe. Mais justement, on teste jusqu'où peut aller l'amour maternel et paternel, vous voyez. Jusqu'où vous êtes capable d'aller. Quand votre fils fait une très, très, très grosse boulette.
Oui, une boulette.
Voilà, une grosse boulette. Donc, on s'amuse beaucoup. Et là, on est en plein boulot. Donc,
Alors, justement, le théâtre, c'est votre premier amour. Vous l'avez dit dans votre autoportrait. Et avec vos copains du lycée Pasteur à Neuilly, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, vous aviez trouvé un professeur extraordinaire. Écoutez.
Chacun a développé ce qu'il était. A fait de lui-même son propre personnage. Un petit peu comme dans la Commedia dell'arte, vous savez, où Paul Schinel était des personnages qui se jouaient eux-mêmes. Et c'était leur propre nom. Et ils ont imposé ce leur personnage comme un type.
Marianne, le théâtre, c'est votre vraie passion?
J'adore. Bon, j'aime beaucoup. Ce que j'aime, c'est jouer. Alors, c'est vrai que jouer sur une scène de théâtre, jouer devant une caméra... C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même joué. Mais c'est vrai que le théâtre, les planches, l'ambiance du théâtre...
Ça palpite, retrouver... le théâtre, non
C'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de risque. La pièce vous appartient quand vous êtes un acteur. Le film ne vous appartient pas quand vous êtes un acteur dans un film. Au théâtre, ça dépend de vous. C'est vous qui vous balancez. Vous êtes toujours... Moi, je suis toujours surprise et émerveillée de ce qu'il y a du monde dans la salle, de ce que les gens se sont déplacés pour nous voir. Et puis après, il faut se lancer, puis on verra bien ce qui se passe.
Eh ben on verra ce qui se passe. Vous restez un instant, vous restez avec nous et dans un instant, Louis de Funès dans le journal de l'inattendu. A tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu de Marianne Chazelle.